Bonjour à tous. Merci bien. Alors bonjour à tous. Ça fait très plaisir de me retrouver au milieu de vous. Et toujours vos sourires sympathiques, votre énergie. Alors j'ai trouvé extraordinaire tout à l'heure la sœur un peu plus âgée en train de chanter, accompagnée au piano par cette dame. Et puis alors toutes les autres en train de parler là. Mais les deux sœurs, allez, elles faisaient leur répétition et ça c'est formidable. Alors, le titre de notre méditation de cet après-midi, c'est « Quand la réalité cesse d'être menaçante ». Vous le savez, David fuit devant son propre fils et il fuit parce que ce dernier, qui porte pourtant un nom, Absalom, ça signifie en hébreu « père de paix ». Mais ce n'est pas du tout la paix entre le fils et le père, c'est plutôt la guerre, puisque le fils veut prendre la place du père et aller jusqu'à porter atteinte à sa vie. Et tout cela nous est rapporté dans le deuxième livre de Samuel, dans les chapitres 15 à 18. Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que c'est un psaume qui nous fait voir David dans une période qui n'est pas le sommet de sa réussite, mais une période où il traverse et connaît l'échec. Pourquoi l'échec ? Parce que cette fuite devant son propre fils est une des situations les plus douloureuses de la vie de David. Douloureuse parce que avoir des ennemis, c'est déjà assez compliqué, c'est pas toujours très agréable. Mais alors quand l'ennemi est son propre enfant, la chair de sa chair, il y a, en plus de se retrouver face à quelqu'un qui vous veut du mal, il y a cette complexité qui est liée à la parenté, cette indignation probablement qui a dû jaillir dans le cœur de David face à l'ingratitude de cet enfant, enfin de cet homme, ce fils, et puis une dimension d'humiliation pour le père. Parce qu'un père qui est le roi du pays et qui est pourchassé par son fils qui a fomenté d'une manière hypocrite toute une rébellion pour renverser son père, c'est extrêmement humiliant comme situation. Et puis vous savez, les liens filiaux, c'est compliqué. Alors quand les ennemis sont à l'extérieur, c'est une chose, quand ils viennent de l'intérieur de la famille, alors là, c'en est une autre. J'ai choisi ce texte parce que David, sous la direction de Dieu, avec l'aide de son Seigneur, va dans une période extrêmement difficile nous démontrer comment confier une situation de tension, d'angoisse entre les mains de Dieu pour se retrouver du coup avec cette capacité de s'endormir et de s'éveiller en paix, alors comme nous l'avons lu dans le psaume 3, alors que rien n'a changé. Les versets 2 commencent par « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». Et on pourrait aussi traduire « Ô Éternel, que mes ennemis sont importants et puissants ». L'expression « mes ennemis » peut également être traduite par « mes oppresseurs, mes tourmenteurs », mais aussi par « mes ennuis ». Parce que ça, c'est dans la racine de l'hébreu. Dans mes ennuis, mes détresses, mes afflictions. Et vous le savez, dans le livre des psaumes, dans la totalité donc des psaumes, les ennemis ne sont pas toujours des personnes, mais aussi des situations personnelles, comme des maladies, des épreuves extérieures ou des circonstances de vie douloureuses. Et en cela, quelque part, ça peut nous toucher, parce que si nous n'avons pas d'ennemis physiques en particulier, mais bon, peut-être avez-vous des difficultés avec quelques voisins, quelques chefs de service dans votre travail, je ne sais. Mais parfois, on n'a pas du tout de soucis avec les autres, mais on a des soucis avec la vie. Et c'est en cela que les ennemis dans ce psaume renferment également cet aspect des choses. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le verbe qui est utilisé donc en français, que mes ennemis sont nombreux, dans l'original, ce verbe fait allusion à, d'une manière générale, à tout ce qui est capable d'angoisser une personne. Alors l'angoisse, certainement, vous ne connaissez pas ça, vous êtes vietnamien, hein ? Vous qui êtes vietnamien, vous ne connaissez pas l'angoisse ou... Si, quand même, ah bon. Je sais pas, comme vous souriez tout le temps, on se dit, bon. Il faut pas se tuer aux apparences. Hein. Donc, il est question d'un état d'esprit lié à une situation pour David. C'est poursuivi par son fils, il risque sa vie. Mais du coup, ça génère une angoisse, une tension, du stress. Et c'est intéressant de voir la réaction de David et comment un homme spirituel, il va pouvoir se tourner vers Dieu puis lui donner ces choses. Au verset 3, il est dit « Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu ?» Vous savez, quand quelqu'un rencontre des difficultés dans sa vie et que ça tourne vraiment très mal, puisque là ça tournait très mal, alors il y a toujours des spectateurs, des anciens amis ou des gens qu'on pensait être des amis, puis qui commencent à jeter un regard sur la situation et puis qui tiennent certains propos. Et là, les propos qui étaient tenus sont traduits dans la Bible en français courant par « Aucune chance que Dieu vienne à son secours ». Donc les événements sont en train de vous écraser et les personnes qui normalement devraient vous aider, vous permettre d'être soutenues, eh bien, ces dernières vous regardent et puis se disent ben, « Mon pauvre gars, c'est fini pour toi. Même Dieu ne viendra pas à ton secours. » Donc, vous voyez que véritablement la pression arrive de toutes les directions. Et en même temps, donc, dans ce texte, le mot qui est utilisé et qui est traduit en français par Dieu, c'est un des noms de Dieu, qui est le nom Elohim, qui, dans les Saintes Écritures, se rapporte au Dieu qui juge. Alors, c'est intéressant parce que certains commentateurs juifs expliquent que cette révolte d'Absalom est la deuxième conséquence du péché de David avec Bathsheba, c'est-à-dire cet adultère, suivi d'un meurtre avec préméditation. Et d'ailleurs, il y a plusieurs meurtres, puisqu'il y a deux officiers qui vont perdre la vie, si je me souviens bien. En plus du riz. Alors, il y a quelque part dans l'esprit de David la connaissance de cette expérience. Il a demandé pardon à Dieu, il a perdu le premier enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Il va ensuite avoir son fils Salomon qui va devenir roi. Mais il a déjà perdu ce premier enfant. Donc Dieu a sanctionné ce comportement d'adultère et de meurtre, enfin, adultère et meurtrier, pardon. Mais il y a des conséquences. Et un des grands commentateurs juifs, s'appelle Rashi, explique que Absalom, dans sa révolte contre son père, a puisé à cette source d'un mauvais comportement paternel. Et il s'est dit, après tout, papa, il tient des propos. Enfin, je modernise, hein. Papa tient des propos, mais il fait l'inverse de ce qu'il dit. Et vous avez l'exemple des plus âgés, de ceux qui devraient effectivement être des modèles, qui peuvent parfois entraîner, sans complètement excuser les enfants, mais qui peuvent quand même entraîner des conséquences dans le comportement de leurs enfants. Et donc, David, quand il est obligé de fuir son propre fils et qu'il connaît cette histoire, il pense que quelque part, il n'est pas impossible que quelque part il pense à cela. Et donc il est affaibli quelque part, déjà de l'intérieur par sa conscience. Et puis là-dessus, les autres lui disent, mais tu sais, c'est fini, Dieu ne va pas t'aider, c'est fini pour toi. Alors vous imaginez cette grande situation dans laquelle il se trouve. Et nous aussi, parfois, nous connaissons cette voix intérieure qui nous juge, ou qui juge d'une situation dans laquelle nous sommes impliqués. Et on entend parfois cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu ne vas pas t'en sortir. Regarde bien. Tu n'as que ce que tu mérites. » Vous savez, des fois, on est dans des situations qui sont ou des situations vraiment de désobéissance. On a désobéi au Seigneur, on le sait. Et puis là arrive notre conscience et la voix également de l'ennemi parfois, qui vient pour véritablement nous terrasser. Là, David a déjà payé avec la mort de cet enfant. Il a demandé pardon à Dieu, il a été rétabli dans sa position de roi. Et voilà comme une deuxième vague d'événements. Alors, c'est intéressant parce que malgré tout ça, malgré probablement une accusation de sa propre conscience, malgré l'opposition de son fils, malgré les propos de certains de ceux qui l'entourent et qui sont accablants, alors malgré tout cela, David ose crier et appeler Dieu à l'aide. Il ose croire au secours de Dieu en dépit de tout, et puis il décide de s'en remettre entre les mains de Dieu. Et moi, je trouve que c'est remarquable cette attitude qui correspond à ce que j'ai appelé le mécanisme de la conversion. Vous savez, quand on pense à notre conversion et à ce qui nous amène au salut, c'est quand on comprend qu'on est complètement perdu, on ne peut rien faire pour être sauvé, nos péchés nous accablent, notre conscience est souillée, et une voix qui est la voix du Saint-Esprit nous dit, puisque c'est son ministère de convaincre de péché, de justice et de jugement, il nous dit « tu mérites d'être condamné ». Et en même temps, ce même Esprit-Saint nous présente le salut en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet de saisir le Christ alors qu'on n'a rien à offrir, si ce n'est notre souillure, nos souillures. Et puis ensuite, on marche dans cette vie nouvelle. Et ce que je remarque d'intéressant dans le comportement de David, qui est un croyant, quelqu'un qui a démontré son affection pour Dieu et son zèle pour le Seigneur, eh bien, il applique le même mécanisme qu'à la conversion, mais dans le cadre de ce qui s'appelle la marche avec Dieu. Donc on va appeler ça, nous les chrétiens, on va appeler ça la marche dans la sanctification. Il applique le même mécanisme. C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai rien à t'apporter si ce n'est ma propre faiblesse, mais je ne vais pas me laisser écraser, ni par l'ennemi de mon âme, c'est-à-dire Satan, ni par mes adversaires physiques et humains, ni par mes émotions qui peuvent me tirer vers la sombre vallée. Mais Seigneur, je décide de compter sur toi, je suis pécheur, et je viens vers toi pour que tu me sauves. Et c'est en cela que ce psaume est intéressant et remarquable pour nous. David ne nie pas sa réalité de tout ce que je viens de décrire. Il la constate, cette triste réalité. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il la confie à Dieu. Je dis cela parce que notre tendance à nous, les êtres humains du 21e siècle, et certainement d'avant, c'est soit on nie les évidences, soit on ne reconnaît pas les difficultés ou ses propres fautes. Pour être pasteur depuis une quarantaine d'années, je peux vous dire que je vois bien avec moi-même dans ma relation avec Dieu, mais aussi en ayant l'honneur de recevoir les confessions de ceux qui veulent bien me les faire. Je remarque qu'il y a une catégorie d'enfants de Dieu qui ont du mal à réaliser, à accepter leur réalité, c'est-à-dire leur faiblesse, leur péché, leur désobéissance, etc. Surtout quand c'est un peu récurrent, c'est que ça revient là, alors ça, c'est très décourageant. Et pourtant, il y a une solution, hein. Il y a une intervention puissante du Seigneur qui est toujours à portée de main. Mais alors, il y en a qui nient ce qui est. Et alors, ceux-là, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir, parce que tant qu'on nie les évidences, on n'y arrive pas. Et puis alors, il y a l'autre catégorie, il y a trois catégories, hein. La première, ceux qui nient. La deuxième, ceux qui sont hypnotisés par leurs fautes, leurs erreurs, leurs péchés, et qui ne voient plus que cela. Donc ça les prive du chemin de la croix. C'est-à-dire, ils ne voient même plus que Dieu est capable de les purifier, que Dieu les aime, parce qu'ils sont omnubilés par leurs fautes. Et puis il y a la troisième catégorie, il y a ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui viennent au pied de la croix, au trône de la grâce, pour être pardonnés, sanctifiés et repartir. Alors, ce qui est remarquable dans l'Ancien Testament, de voir David qui agit comme un chrétien moderne, on va dire, moderne dans le sens profond du terme, hein, c'est-à-dire un chrétien d'aujourd'hui, mais qui croit effectivement à la grâce de Dieu et à sa capacité de purifier son enfant qui est sombré dans le péché. Et du coup, cette attitude de confession, de reconnaissance de ses fautes, cette attitude de lumière dans le fond devant Dieu, il se met à la lumière de Dieu et il demande pardon, et il demande le soutien. Alors, fait jaillir de son cœur le verset 4. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Tu es mon bouclier est traduit dans d'autres éditions par tu es mon défenseur à mes côtés, tu es mon protecteur tout autour de moi, tu es un abri en mon centre, c'est-à-dire de ma vie, tu es ma sauvegarde et mon espérance. Et puis tu es ma gloire, c'est lié à cette situation d'humiliation que connaît David, dont il est en partie responsable, bien entendu. Alors quand il dit tu es ma gloire, c'est que en toi, Seigneur, je retrouve ma raison d'être. Je suis humilié par mon fils. Je suis humilié par ceux qui le suivent. Je suis humilié par certains de ceux que je pensais être mes amis. Je suis attaqué par ma conscience et par l'adversaire de mon âme. Mais Seigneur, quand je me tourne vers toi, je retrouve en quelque sorte mon honneur. C'est-à-dire, je retrouve ma personne. Toi, tu me relèves. D'ailleurs, il va dire, tu relèves ma tête. Et certains ont traduit ce verset, tu relèves ma tête, par celui qui me redonne ma dignité. Vous le savez, peut-être dans le code d'honneur de la guerre, en tous les cas de l'armée française, mais ça doit être, j'espère, international, y a un règlement qui dit que, évidemment, il faut vaincre son ennemi, mais il ne faut jamais l'humilier. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais pousser son adversaire au bout. On a le droit et on doit le vaincre, mais on ne doit pas l'humilier. Je parle adversaire humain, hein, j'entends. Alors, parce que l'adversaire spirituel, ma foi, faut le respecter et se confier en Dieu. Hein, faut pas mélanger les choses. Hein, faut pas l'aborder comme ça. Hein. Mais on ne doit même pas apporter atteinte à la dignité de celui qu'on vient de vaincre. Et c'est en cela qu'on voit le Dieu d'amour qui prend son enfant désobéissant, qui le prend et qui redonne à ce dernier cette dignité, qui n'est pas une dignité orgueilleuse issue de la nature humaine, mais qui est la dignité que Dieu donne à toute créature qui se tourne vers lui, parce que c'est la dignité qu'on reçoit dans l'humilité, dans la simplicité, dans la dépendance de Dieu. On a compris ce qu'on est, notre nature pécheresse, nos faillites, nos faiblesses, nos paresses spirituelles, on a compris tout cela. Mais on se tourne vers le Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui est capable de nous redonner non seulement la pureté du cœur, mais en même temps une image de nous-mêmes. Non plus orgueilleuse, comme je vous le disais, mais une image d'un disciple qui suit son Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité. Dans le fond, David, il déclare, c'est la chose suivante à Dieu, même si j'ai péché, même si je ne suis pas sans reproche, Seigneur, tu prends soin de moi. C'est quelque chose, ça. Et on a besoin, en tant que chrétien, de savoir que il nous faut à tout moment nous tourner vers le Seigneur. Quand ça va bien, c'est facile. Mais même quand ça va mal, ne pas se laisser écraser par l'ennemi de nos âmes ou par notre propre conscience. Outre mesure, la conscience est là pour nous sensibiliser à la désobéissance, hein, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais on ne doit pas rester dans ce tourment perpétuel qui, à ce moment-là, devient une œuvre non plus du Seigneur, mais une œuvre de l'ennemi de nos âmes pour véritablement nous réduire à l'impuissance. Dans le verset 5, il est dit de ma voix, je crie à l'Éternel. Certains ont traduit à pleine voix. Je crie vers lui, c'est-à-dire vers Dieu. Et il me répond de sa montagne sainte. Et ce qui est intéressant dans le texte hébreu, c'est la simultanéité entre la demande et la réponse. La demande de David, je crie vers toi, la réponse de Dieu, hein, qui est, il me répond de sa montagne sainte. Et ça, c'est dans la racine hébraïque extrêmement fortement exprimé, par les mots utilisés. Sous-entendu, ce rappel que que quelles que soient nos expériences fâcheuses, parfois on a le sentiment que Dieu ne répond pas ou met du temps à répondre, etc. N'oublions pas que les saintes écritures nous rappellent dans certains passages que quand on implore le Seigneur, il répond. Et il ne faudrait pas qu'au XXIe siècle, on ait tendance à oublier cette grande vérité. Et c'est là où il est toujours bon de se rappeler ce que l'Écriture nous dit et sous quelle forme elle le dit, plutôt que de nous suffire de nos conceptions issues de nos émotions, de notre expérience propre. Ce n'est pas en luttant lui-même, dans le fond, que David va s'en sortir, et c'est une des démonstrations qu'il nous partage, mais en ouvrant à Dieu la situation dans laquelle il se trouve. Hier soir, j'étais avec des jeunes dans l'église de Paris Nation, et c'était intéressant parce que à la fin du groupe de jeunes, on a ce qui s'appelle le temps des binômes. C'est-à-dire, les gars se mettent à deux ou à trois ensemble, les filles avec les filles. Et puis hier soir, j'étais avec deux autres chrétiens, bon, des gars de 25 ans, hein, 25, 26 ans. Et puis, ils me posaient question, parce que ça va dans tous les sens, hein, je veux dire. C'est pas moi qui vais leur demander comment ça va spirituellement. Ils ont aussi le droit de me poser la question. Alors, il y en a un qui s'est pas gêné. Il m'a dit, alors Jean, et toi, comment ça va spirituellement? J'ai trouvé ça fort sympathique. Parce que ça dénote qu'il se soucie de moi et qu'il prie pour moi. Alors, je lui expliquais là où j'avais besoin d'aide, de la prière des uns et des autres. Puis, à un moment donné, je lui dis, et toi? Et lui, il me répond, tu sais, Jean... c'est pas facile de venir à Dieu dans toute lumière. Et alors je le regarde et je lui dis pour le détendre, mais en même temps pour l'aider, je lui dis, tu sais, pourtant c'est quand même la personne la plus facile à aborder parce que c'est la seule qui ne répète rien. Alors je lui dis, si tu confies les choses à Dieu, personne d'autre ne sera au courant. Alors il a souri, il m'a regardé, mais en même temps je lui communiquer une vérité fondamentale, c'est que s'il y en a un qui ne rapporte rien, c'est le Seigneur. Donc on est d'autant plus facilement invité à lui confier nos situations. Alors David, il le fait. Mon jeune frère, hier soir, me disait, moi j'ai quelques difficultés. Et je pense qu'il avait la difficulté de paraître devant Dieu, il avait peut-être honte de certaines situations dans sa vie, peut-être, hein. Qu'après on a été dérangé par d'autres personnes qui ne pouvaient décemment pas continuer cette conversation à trois. Mais lui, David, il n'hésite pas à se tourner vers Dieu. Et puis en arrivent les conséquences de cette attitude intérieure et de cette décision volontaire de se tourner vers le Seigneur. Le verset 6, c'est « Je me couche et je m'endors ». Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alors j'ai noté que dans la traduction que vous avez projetée tout à l'heure, c'est « Je me couche et je m'endors en paix ». Moi, je n'ai pas « en paix » dans ma traduction, mais dans d'autres traductions, ça paraît. Donc voilà, quelqu'un qui se trouve dans une situation menaçante, au risque de perdre sa vie, et qui est capable de s'endormir et de se réveiller en paix. Alors ça, c'est l'apothéose de l'action divine. C'est l'expression de cette phrase qui revient souvent dans les évangiles. Je vous donne ma paix, ne crains point, crois seulement. Ça, c'est la présence de Dieu qui apaise alors que les situations ne sont pas changées. À tel point qu'un rabbin du XIIIe siècle, qui était un exégète, a paraphrasé ce verset de la manière suivante. Même en danger mortel, écrit-il, je suis allé me coucher normalement et j'ai dormi paisiblement comme un homme exempt de tout souci. Même quand je me suis éveillé, je me suis levé calmement et non pas comme un homme qui s'endort dans l'angoisse et s'éveille en sursaut, tout saisi de troubles en sursaut tout saisi et troublé des cauchemars qui l'assaillent. C'est vraiment David, alors que rien n'a changé dans sa relation avec Dieu, c'est lui qui a changé. Alors il est en paix. Alors j'espère que vous vous endormez en paix, vous réveillez en paix, n'êtes pas réveillé la nuit par des angoisses, mais si c'était le cas, il faut se tourner vers le Seigneur et les lui confier. Cela m'a fait penser à cette attitude de Jésus qui dormait à l'avant de la barque alors qu'ils étaient en pleine tempête. Et puis les disciples qui écopaient à toute vitesse, puis à un moment donné ils ont dit on arrête quoi. Et ils ont été réveillés le maître. Et puis le maître leur dit, mais Jean de peu de foi. C'est-à-dire, parfaitement calme. Vous voyez, le Seigneur est là, et David est arrivé à expérimenter ce calme que le Seigneur avait, alors que lui-même savait très bien qu'il allait être cloué sur une croix, qu'il était venu pour cela. Enfin, quand je pense au Seigneur Jésus-Christ dans son incarnation, sensible comme chacun d'entre nous, sachant qu'il va à la mort et que plus que la mort, il va être fait péché pour nous, c'est quelque chose d'impensable et d'insondable pour les humains que nous sommes, le Dieu 3 fois 5 qui devient péché. Ça a été ce qui a fait transpirer de grumeaux de sang le Seigneur. Ce n'était pas simplement la mort physique, c'était d'être séparé de son Père et de devenir cette laideur qu'est le péché. Mais pendant son ministère terrestre, en dehors de l'épisode du jardin de Gethsémané, le Seigneur est parfaitement calme et paisible. Et il veut nous transmettre ces choses au quotidien, à chacun d'entre nous, à chacun de ses enfants. Et puis j'ai repensé à David qui dit, et je vais terminer par cela, David qui dit dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. » Donc, vous savez, quand c'est le moment de la guerre, on n'est pas en train de manger. Vous savez que les Français aiment beaucoup être à table. Et... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des Vietnamiens. Vous aimez être à table aussi? Oh, vous avez bien raison. Non, merci, merci. Alors, bon, nous, on aime être à table, et puis ça discute, et puis ceci, et puis cela. Mais quand c'est la guerre, c'est la guerre. Mais voilà que est imagée cette situation de tension, où, oui, il y a l'adversité en face, mais la présence de Dieu fait qu'on est comme si on était à table, en train de discuter avec des amis. C'est-à-dire on est conscient de la réalité visible, mais on vit dans la réalité invisible, la présence du Dieu Tout-Puissant qui nous garde dans sa paix et qui nous conduit. Alors que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette semaine, et puis qu'il garde chacun d'entre nous, et qu'il nous apprenne à développer cette attitude de confiance en lui et de repos en lui pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.